Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h30, bienvenue à tous, bonjour, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1, le Conseil de défense sanitaire. Vers quoi se dirige-t-on? On va vous donner les pistes sur la table du gouvernement et puis on sera avec le docteur Didier Pittet, professeur Pittet, infectiologue avec nous. Éric Ciotti accueille Valérie Pécresse dans les Alpes-Maritimes pour son premier meeting de campagne. Il lui propose de faire campagne commune, un tandem. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On verra ça avec Alexandre Chauveau. Éric Zemmour, blessé au poignet avec 9 jours d'ITT, c'est le résultat de son agression par un militant hier à Villepinte. Éric Zemmour qui a fait plusieurs propositions comme la fin du droit du sol. On va y revenir avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Et puis le temps avec vous, Anissa Haddadi. La tendance météo avec une ambiance hivernale qui s'installe.
Oui, d'ailleurs, cette ambiance, Romain, elle s'installe pour toute la semaine. Nous allons subir une vague dépressionnaire qui vient des îles britanniques. On aura donc du vent fort, voire tempétueux même au milieu de semaine. Un risque d'inondation et toujours beaucoup de neige en montagne. Aujourd'hui, ça devient très humide cet après-midi avec l'arrivée d'une perturbation à l'ouest.
Anissa Haddadi, merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. Est-ce que vous êtes prêt à un nouveau serrage de vis, comme on dit, à l'approche de Noël? C'est tout l'enjeu du Conseil de défense sanitaire qui a débuté à midi. Le gouvernement marche sur des œufs parce que certains commencent à saturer avec les mesures barrières, il faut le dire. Avant de retrouver le professeur Pittet, on est avec vous, Jacques Serret. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Et vers quoi se dirige-t-on? Qu'est-ce qui pourrait être décidé?
Eh bien, c'est un point très délicat sur lequel le Conseil de défense doit trancher, la vaccination des plus jeunes. On attend un retour, une prise de position. Faut-il, oui ou non, vacciner les enfants de moins de 12 ans? La Haute Autorité de Santé n'a pas encore donné ses recommandations sur la question, mais si cette instance y était favorable, l'exécutif pourrait annoncer la mise en place de cette vaccination à partir du mois de janvier, d'ici un mois, histoire de préparer les esprits dont on sait les réticences des parents. Alors le gouvernement pourrait réserver cette vaccination aux plus fragiles ou simplement la recommander et l'administrer seulement sur la base du volontariat pour ne pas heurter les consciences. Autre point sur la table du Conseil de défense, le retour des jauges dans les lieux clos ou encore les contrôles d'identité en plus de la vérification du pass sanitaire. Les restaurateurs, les patrons de bars pourraient être amenés à vérifier la concordance des certificats avec leurs propriétaires. Objectif, lutter contre la fraude au pass sanitaire. Manière aussi d'actionner un levier supplémentaire pour convaincre les Français qui ne sont toujours pas vaccinés. Voilà en somme les pistes de réflexion ce midi à l'Élysée. Mais à ce stade, aucun couvre-feu, aucun confinement n'est envisagé.
Jacques Serret, merci Jacques. Bonjour professeur Pittet.
Bonjour.
Infectiologue, merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Ce qui frappe avec cette cinquième vague, c'est que le nombre de cas de Covid quotidien augmente. Et il augmente beaucoup plus vite que le nombre de malades en réanimation. Alors, où est l'urgence?
Écoutez, l'urgence, elle est plutôt anticipative. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'on a une augmentation très rapide du nombre de contaminations ou d'infections banales, à un moment donné, on s'attend toujours à avoir un excès de patients hospitalisés ou qu'on doit hospitaliser, y compris bien sûr en réanimation.
Oui, c'est ça. On réagit à l'avance, c'est ça? Ça veut dire qu'il y a toujours un décalage en réalité. Parce qu'il y a, 2000 cas de réanimation pour l'instant, ce qui n'est pas énorme. On était à 7000 au pire de la première vague.
Oui, mais on sait qu'il y a de la souffrance quand on est avec ces nombres-là d'hospitalisations et on sait aussi que les soignants sont en souffrance parce que ça fait maintenant 2 ans ou pratiquement 2 ans qu'ils sont sans arrêt sur la brèche. Mmh. Et puis on sait aussi qu'il y a des soignants qui manquent, il y a des soignants qui tombent malades. Comme le virus devient totalement hyper endémique, c'est un terme qu'on n'aime pas utiliser, mais on le retrouve partout, ça veut aussi dire que les soignants finalement acquièrent ce virus en dehors de l'institution, mettent parfois même lorsqu'ils travaillent des patients à risque. Donc il convient effectivement de réduire la vague au maximum, de l'étaler au maximum pour éviter de la surcharge sur les hôpitaux. Puis aussi, il faut bien le dire, pour éviter un nombre de ces infections qui ensuite se transformeront en Covid long, qu'on n'aime évidemment pas du tout non plus.
Oui, on cherche à aplanir la vague, comme on dit. Oui. On parle de la vaccination des 5-11 ans. Jacques Serret nous en parlait à l'instant. À quoi ça servirait?
Écoutez, la vaccination, globalement, c'est un des c'est un des outils évidemment les plus importants, vaccination, dose de rappel de la population en général. Et évidemment qu'aujourd'hui, on se pose sérieusement la question, mais d'autres pays ont déjà répondu, les États-Unis, le Canada, Israël, bientôt l'Italie, et ils ont commencé ou vont commencer les vaccinations pour les, disons, 5 à 12 ans. Mmh. On attendait encore des données de sécurité qui sont revues dans chaque pays. Chaque pays a un peu son rythme et ses habitudes, et on s'attendait, oui, effectivement, à recommander cette vaccination à partir du mois de janvier.
J'ai une dernière question à vous poser, professeur. La campagne de rappel a commencé. On va d'ailleurs aller bientôt dans un centre de vaccination. Tout le monde veut du Pfizer et beaucoup moins du Moderna. Il y a plus de risques avec le Moderna ?
Bon, ce n'est pas une question de risque. C'est que, en effet, certains ou certaines études décrivent un tout petit peu davantage de réactions ou d'effets secondaires suite à l'injection, en particulier de la deuxième, parfois même de la dose de rappel. Et donc, c'est évidemment que, du coup, des personnes préfèrent demander ce Pfizer plutôt que ce Moderna. Je dirais que c'est un détail. Ça circule surtout comme information. Ça n'a pas une grosse différence, sauf que bien des personnes se plaignent au moment de la dose de rappel d'avoir quelques effets secondaires, être resté au lit pendant quelques heures, ou avoir un tout petit peu de fièvre. Voilà. Alors, mais globalement, lorsqu'on a été vacciné par l'un ou l'autre des deux vaccins, on peut recevoir une dose de rappel de l'un ou l'autre, voire
sans,
du même.
Sans prendre de danger.
Non.
Merci beaucoup, professeur Pittet, épidémiologiste. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Il est 12h36 et on va partir, on en parlait à l'instant, dans un centre de vaccination. Il rouvre, c'est le cas à Aubernais, à 25 km de Strasbourg, une commune de 10 000 habitants, où se pressent des candidats au vaccin qui n'hésitent pas à faire plusieurs dizaines de kilomètres pour venir. Mélina Fachin en direct avec nous. Bonjour Mélina.
Bonjour Romain.
C'était les premières piqûres ce matin, hein ?
Oui, 2 mois après sa fermeture, la salle des fêtes d'Aubernais se transforme à nouveau en centre de vaccination. Pour les 5 soignants présents sur place, il faut reprendre les bonnes habitudes.
Ce matin, c'était ma première journée à la préparation depuis le mois d'octobre. Et c'est vrai que j'ai mis une bonne demi-heure à reprendre mes gestes et mes automatismes.
Aurore Debat est infirmière et elle a déjà beaucoup de travail.
Ça a été pris d'assaut très très vite. Cette semaine, tous les rendez-vous sont pris. Si vous cherchez un créneau, essayez d'aller régulièrement sur Doctolib parce que des créneaux seront ouverts régulièrement, mais pour l'instant, il faut être assez réactif.
Parmi les premiers vaccinés, Catherine et son mari, bien contents d'avoir réussi à obtenir leur 3e dose.
On est venu se faire vacciner à Aubernais puisqu'on n'a pas trouvé de centre de vaccination sur Strasbourg. Aujourd'hui, on arrive en plus à échéance, bientôt des 7 mois. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on fait 50 km pour venir ici.
Voilà, je vous pique. Hein. Ça va ?
Ça va, pas de soucis.
Voilà, c'est terminé.
Là, c'est parfait. Je suis très heureuse.
Le centre de vaccination d'Aubernais injectera 3000 doses par semaine et espère arriver aux 40 000 d'ici mi-février.
Merci beaucoup Mélina. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir des rendez-vous, mais bon, on y arrive. Il y a des rendez-vous qui s'ouvrent. On va sur Doctolib, on va sur les sites, on appelle son médecin. On a jusqu'au 15 janvier pour garder son pass sanitaire. Il est 12h38.
Europe Midi. Midi 30, 13h. Romain Desarbres.
La politique, premier déplacement de campagne pour Valérie Pécresse. C'est aujourd'hui chez Éric Ciotti à Nice, puis dans son village de Saint-Martin-Vésubie. Écoutez ce que Valérie Pécresse a dit d'Éric Ciotti à son arrivée à Nice.
Éric a fait une formidable campagne. Maintenant, c'est le moment de l'unité. Cette droite, elle est fière d'elle-même, fière de ses valeurs. Elle a, je pense, un projet qui est construit, qui est abouti, avec des valeurs qui sont partagées par tous les candidats. Et je pense surtout qu'Éric a une place très singulière à jouer dans cette campagne qui s'ouvre.
Voilà, Éric Ciotti a une place très singulière à jouer dans cette campagne qui s'ouvre. Alexandre Chauveau, c'est vous qui suivez ce déplacement symbolique. Ce qui frappe, c'est qu'Éric Ciotti entend bien peser dans la campagne présidentielle. Hein.
Oui, celui qui a été défait au second tour du Congrès des Républicains avec 39% des suffrages est convaincu que la présidentielle se gagnera sur ses idées. Une droite forte et assumée, dit-il. Le député des Alpes-Maritimes va même jusqu'à proposer à Valérie Pécresse, je cite, une campagne commune en tandem, telle que l'ont voulu selon lui les militants. En clair, c'est presque un ticket qu'Éric Ciotti propose à la candidate qui a, dès le soir même de sa désignation, déclaré qu'elle ne reprendrait pas son idée de créer, je cite, un Guantanamo à la française. C'est donc un déplacement à forte connotation politique pour Valérie Pécresse, qui va devoir faire avec toutes les sensibilités de son parti pour éviter d'éventuelles défections et en même temps imposer la ligne pour laquelle elle a été choisie par les adhérents LR. Le déjeuner devrait servir à aplatir les choses, tout comme le déplacement de la candidate cet après-midi à Saint-Martin-Vésubie, village d'Éric Ciotti, sinistré par la tempête Alex il y a 2 ans. Valérie Pécresse et Éric Ciotti qui tiendront ensuite ensemble une réunion publique où chacun observera le discours et l'attitude de l'un par rapport à l'autre. À droite, le spectre de la division n'est jamais très loin.
Alexandre Chauveau, il est 12h40, on apprend à l'instant qu'une enquête est ouverte après des violences à l'intérieur du meeting d'Éric Zemmour. Gros succès pour le premier grand meeting d'Éric Zemmour, il y avait plus de 2 300 000 téléspectateurs devant les chaînes info pour regarder ce meeting. On va en parler dans un instant avec Louis Dragnel, à tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
12h43, Paris réussi donc pour Éric Zemmour. 2 300 000 téléspectateurs devant les chaînes info pour regarder le discours du candidat qui avait rassemblé 13 000 personnes à Villepinte. Sa campagne est relancée. On en parle avec vous, Louis Dragnel. Bonjour Louis.
Bonjour Romain.
Chef du service politique d'Europe 1. On parle de Paris réussi parce qu'il a rempli la salle. Il y avait du monde devant la télé, visiblement. On a vu un candidat. Et puis Louis, il y avait un petit air de Nicolas Sarkozy 2007. Hein.
Oui, absolument. Alors, surtout sur la forme, vous savez, Nicolas Sarkozy excellait dans l'organisation de super meetings comme celui d'hier, avec des musiques de films jouant sur les émotions, une mise en scène soignée, des drapeaux français partout et une entrée de rockstar qui traverse la foule pour arriver jusqu'à son pupitre. Mais une nuance tout de même. Nicolas Sarkozy bénéficiait de soutien avec un poids politique fort, des anciens ministres, des personnalités du monde de la culture et hier, Philippe de Villiers, qui devait être le soutien de poids, n'a finalement pas fait le déplacement. Et puis, à la fin des meetings de Nicolas Sarkozy, il n'y avait pas beaucoup de tensions ou peu de tensions. Et là, selon nos informations, 62 interpellations donnant lieu à 60 gardes à vue, 79 verbalisations. Et Éric Zemmour lui-même a été agressé et blessé au poignet par un jeune de 27 ans. Et on vient de l'apprendre, donc une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny. Donc ça, c'est pour la forme.
Pour le fond, sur le programme.
Eh bien, Éric Zemmour a repris les grands thèmes de la droite classique, mais en allant beaucoup plus loin, trop loin ou trop excessif d'ailleurs, selon ses détracteurs. Les deux grands axes de son programme, pour résumer, lutte contre le grand déclassement et lutte contre le grand remplacement, avec des mesures comme l'arrêt immédiat des flux migratoires, la fin du droit du sol ou mettre hors d'état de nuire les associations qui ramènent les migrants en Europe, ça ce sont ses mots. Ensuite, en matière d'économie, réduire les cotisations des salariés afin de rendre un 13e mois aux employés au SMIC ou encore baisser massivement les impôts de production pour toutes les entreprises. Il était aussi question de fiscalité et cette proposition de supprimer les droits de succession pour la transmission des entreprises familiales. Concernant l'école, il propose, je cite, de chasser des classes de nos enfants le pédagogisme, l'islamo-gauchisme et l'idéologie LGBT.
Alors, vous le disiez, les premiers rangs étaient un peu légers, j'allais dire. L'enjeu des prochaines semaines, Louis, ce sont les ralliements. Qui va rejoindre Éric Zemmour?
Oui, vous l'avez dit, c'est un peu le point faible d'Éric Zemmour pour le moment. Alors, il bénéficie quand même du soutien de Christine Boutin, Jean-Frédéric Poisson, le président de Via, de Jean Messia, mais pas encore de gros poids lourds, d'anciennes figures, par exemple, de la droite. Selon nos informations, c'est aussi pour cette raison qu'il devrait nommer un directeur de campagne dans les prochaines heures.
Merci beaucoup, merci Louis Dragnel. Il y en a un qui a tweeté au sujet d'Éric Zemmour, c'est Éric Ciotti. L'agression d'Éric Zemmour en plein meeting est inacceptable, a dit Éric Ciotti. C'est vrai que peu de gens se sont émus du fait qu'Éric Zemmour a été blessé pendant son meeting.
Bah, je crois à ce stade, c'est le seul responsable politique qui s'en est ému, oui.
Merci Louis Dragnel. C'est une information sur laquelle je voulais revenir. Dans Europe Midi, le nombre d'arrêts maladie liés au Covid a doublé cette année par rapport à l'an dernier. On le découvre dans le baromètre Malakoff Humanis. Et on en parle avec vous, Maud Descamps. Bonjour Maud.
Bonjour.
Comment est-ce que ça s'explique?
Alors c'est très simple. Hein. Il y a eu plus d'arrêts liés au Covid, mais moins d'absences liées à d'autres maladies. On va regarder justement les chiffres en détail. L'absentéisme lié au Covid est passé de 6% du total des arrêts l'année dernière à 12% cette année. Et les absences pour maladies ordinaires, c'est-à-dire les grippes, les rhumes et autres maux hivernaux, elles ont baissé 25% des arrêts contre 30% l'an dernier. Et ce sont les managers qui sont en première ligne. Un manager sur deux s'est fait prescrire un arrêt maladie ces deux dernières années. À noter également la hausse des arrêts pour troubles psychologiques et épuisement professionnel qui sont passés de 15 à 17% en un an. Et enfin, sachez qu'il y a globalement moins d'arrêts maladie depuis la crise Covid, ce qui peut être surprenant. 38% des salariés s'en sont vus prescrire un cette année. Ils étaient 36 l'an dernier. Alors qu'entre 2016 et 2019, ce taux dépassait systématiquement les 40%.
Maude Descamps, merci beaucoup Maude. On est en direct avec Jean-Yves Duménil, secrétaire général de la CPME, les petites et moyennes entreprises. Bonjour Jean-Yves Duménil.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Est-ce que vous ressentez cette cinquième vague en termes d'arrêt maladie? On vient d'en parler, dans les petites et moyennes entreprises, dans les PME.
Alors c'est encore un peu tôt sur les arrêts maladie. Ce qu'on ressent sont les difficultés liées à la fermeture des classes. Ça, c'est déjà perceptible et ça entraîne effectivement l'absence de salariés qui sont également parents, qui se retrouvent confrontés du jour au lendemain à une fermeture de la classe et au fait de devoir garder leurs enfants chez eux. Donc ça, on le ressent bien et c'est un motif d'inquiétude parce qu'on craint que les choses n'aillent pas en s'améliorant dans les semaines qui viennent.
Oui, et ça se gère difficilement, ça désorganise les entreprises.
Oui, alors dans les PME, vous savez qu'il y a une relation directe entre le chef d'entreprise et ses salariés, donc ça se gère au cas par cas, on arrive à trouver des terrains d'entente pour que le salarié soit absent, qu'il puisse rattraper derrière, enfin on arrive à gérer les choses, mais si ça prenait des proportions plus importantes, effectivement ça pourrait commencer à désorganiser l'activité des entreprises, comme on l'a connu dans la période récente l'année dernière.
Qu'est-ce que les chefs d'entreprise redoutent le plus dans les prochaines semaines? Il y a un conseil de défense sanitaire qui se tient à l'Élysée aujourd'hui. Comment les chefs d'entreprise voient-ils les prochaines semaines et le début de l'année prochaine?
Alors, ce qu'ils redoutent le plus, c'est très clair, ça serait un éventuel reconfinement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. Et puis ensuite, ça serait de revenir sur une période qui a été absolument détestable, notamment pour le commerce, qui est celle qu'on a traversée avec la distinction entre les commerces essentiels ou non essentiels. C'est quelque chose d'incompréhensible pour les commerçants. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses qui sont les plus redoutées. Ce qu'on craint également, c'est qu'on revienne sur des obligations en termes de télétravail. Et vous l'avez dit tout à l'heure dans le sujet précédent, c'est vrai que le télétravail, ça peut être une solution pour limiter la distanciation sociale, mais il y a aussi des effets pervers, des effets négatifs sur les salariés qui ne sont pas tous en des conditions optimales pour être en télétravail. Et vous l'avez dit, 15% d'augmentation d'arrêt liés à des troubles psychologiques en raison notamment du télétravail. Donc ça aussi, il faut que ça puisse être du cas par cas dans les entreprises et qu'il n'y ait pas d'obligation.
Oui, c'est une période compliquée. Je voulais qu'on parle également de l'indemnité inflation, le chèque inflation pour les Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. C'est une décision de l'État, mais ce sont les entreprises qui vont devoir la verser dans un premier temps. C'est encore une usine à gaz, cette histoire.
Oui, alors on a fait une enquête à la CPME récemment et il ressort de cette enquête quelque chose dont on avait bien le sentiment, c'est que plus de 60% des chefs d'entreprise considèrent que ce n'est pas le rôle des entreprises de verser cette indemnité inflation. C'est une décision qui appartient à l'État et on ne voit pas pourquoi c'est le chef d'entreprise qui se retrouve l'opérateur pour verser cette somme. D'autant plus qu'il va y avoir des problèmes pratiques. Vous savez que cette indemnité, elle sera versée aux salariés qui étaient aux effectifs de l'entreprise dans le courant du mois d'octobre et elle sera versée en décembre. Bon, évidemment, on a des problèmes pratiques avec des gens qui ont quitté l'entreprise depuis octobre. Oui. On n'a plus forcément de relation avec ces salariés puisqu'ils sont partis. Il va falloir faire des fiches de salaire rectificatives alors qu'on ne sait plus où les gens sont. Enfin, franchement, c'est pas le rôle des entrepreneurs. On a autre chose à faire dans la période actuelle.
Et vous n'êtes pas des banquiers. Merci beaucoup, Jean-Yves Duménil.
Je confirme.
Vous confirmez. Merci beaucoup, Jean-Yves Duménil. Et très bonne journée à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation, l'invitation d'Europe Midi. Il est 12h51. On va parler d'une fin de saison complètement folle en Formule 1. Deux pilotes sont à égalité parfaite au classement. On voit ça dans un instant. Restez bien avec nous sur Europe 1. À tout de suite.
Europe Midi,
Romain Des Arbres.
Il est 12h54, on va parler Formule 1 parce que deux pilotes ne sont pas au coude à coude quasiment à égalité, ils sont à égalité parfaite au classement, Lewis Hamilton et Max Verstappen, le tout au terme d'un Grand Prix d'Arabie Saoudite qui restera dans l'histoire. Et il n'y a plus qu'un Grand Prix de Formule 1, un seul Grand Prix, une seule course pour les départager. Jean-François Pérez, entre les deux pilotes, tous les coups sont permis, hein.
Oui, c'est un dimanche qui restera dans l'histoire de la Formule 1. Un Grand Prix totalement fou, trois départs, des drapeaux rouges, des accrochages en pagaille, des débris sur la piste et deux champions au bord de la crise de nerfs. Comme souvent, Max Verstappen a endossé le rôle du méchant, sa conduite roublarde, voire dangereuse, lui a valu une pénalité et le commentaire cinglant de son rival britannique, Hamilton, vainqueur, épuisé, mais surtout très en colère au micro de nos confrères de Canal+.
C'était une course complètement dingue. C'était très dur de rester concentré sur le pilotage. J'ai essayé de garder mon calme autant que possible, laisser mon agressivité sur la piste. Quant à lui, on ne savait pas s'il allait à droite ou à gauche. Je comprenais rien à ce qu'il faisait. Ouais, c'était assez dangereux.
Voilà, au final, pour la première fois depuis 1974, deux pilotes sont à égalité parfaite avant le dernier Grand Prix de la saison. Tout se jouera donc à Abu Dhabi dimanche prochain, 14h, frisson garanti. Hamilton devra faire mieux que Verstappen pour remporter son 8e titre de champion du monde. Si les deux pilotes s'accrochaient encore et abandonnaient, eh bien c'est le fougueux néerlandais qui serait sacré pour la première fois à seulement 24 ans, car le critère numéro 1 pour départager deux pilotes, eh bien c'est le nombre de victoires en course et Verstappen mène 9-8 face à Hamilton.
Merci Jean-François. Le temps tout de suite avec vous Anissa Hadadi. Après une matinée sous un ciel bien gris, la pluie arrive, hein.
Oui, c'est une nouvelle perturbation en effet qui arrive cet après-midi par l'ouest. Ça a déjà commencé, hein, cette perturbation. Elle amène avec elle beaucoup de nuages sur toute la moitié ouest du pays et puis de la pluie sur l'Aquitaine, l'Île-de-France, la Normandie, le centre Val-de-Loire. Voilà, la fin de journée est humide. Pensez aux parapluies. Sous ces nuages, les températures sont elles plus douces. Elles vont remonter, hein. On a vraiment du redoux sur le nord-ouest du pays. Dans le nord-est et le sud, là on a un ciel qui est un petit peu plus clair avec quelques éclaircies, un temps plus calme et sec. Sur les Alpes et le pourtour méditerranéen, donc sur le quart sud-est, on a vraiment un temps très agréable avec un soleil généreux. Mais attention, là le vent souffle encore très fort cet après-midi. Mistral et Tramontagne jusqu'à 90 km/h. Attention, sur les Alpes et les Pyrénées, on a toujours des chutes de neige. Les chutes de neige les plus importantes arrivent dans les prochains jours. On aura jusqu'à 2 mètres de neige à partir de 1800 mètres. 3 degrés à Belfort, c'est frais dans l'Est, 4 à Nancy et Strasbourg, 6 degrés à Lille et Lyon cet après-midi, 7 à Clermont-Ferrand, 8 degrés à Paris. Dans le Nord-Ouest, c'est un petit peu plus doux avec 12 degrés à Saint-Brieuc et Bordeaux, 13 pour Brest, Quimper et Bastia et 15 degrés à Nice.
Merci Anissa, il est 12h57, dans un instant c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Nous on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Très bel après-midi sur Europe 1.